Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Claudette Lauvencin. Elle est la créatrice de Fempo, première marque française de culottes menstruelles. Claudette et son amie et associée Fanny ont créé Fempo avec l'envie et l'ambition d'accompagner les femmes tout au long de leur cycle afin qu'elles vivent en harmonie avec leur corps et que celui-ci ne soit plus un ennemi, mais un allié. Aucune d'entre elles n'avait les connaissances nécessaires pour entrer dans cet univers parfois impitoyable de la mode et du textile. Et pourtant, elles se sont lancées malgré tout. Cet épisode est inspirant, motivant et Claudette vous donne des clés pour mener à bien votre projet. J'ai beaucoup aimé échanger avec elle et j'espère que cet épisode vous plaira. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Claudette.
Bonjour Jeanne.
Comment vas-tu ?
Très bien, merci et toi ?
Très bien aussi, merci. Je suis vraiment ravie de te recevoir au micro de Basilic. Ça fait longtemps qu'on échange, c'est ce que je te disais avant qu'on commence à enregistrer, mais les premiers échanges de mails remontent à il y a plus d'un an. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on en discute. Je suis ravie qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Tu es donc l'une des fondatrices de la marque de culottes menstruelles Fempo, dont on va parler tout au long de l'épisode. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Ben oui, je me présente. Donc moi, c'est Claudette. Et comme tu as dit, j'ai cofondé la marque Fempo avec mon amie de longue date, Fanny Abbès. Donc, on a fondé cette entreprise en 2017. Et juste pour la faire courte, Fempo, c'est quoi ? C'est une culotte en tissu toute fine qui permet de remplacer les protections hygiéniques classiques et qui se porte en moyenne pendant 12 heures.
Qu'est-ce que ça signifie, Fempo ?
Ah ben, on n'est pas allé très loin pour le nom. Fempo, pour nous, c'est plutôt simple. C'est femme et pouvoir. Donc, pour nous, c'est un peu, ça résonne tout ce qui est... Ben, déjà, c'est un produit qui a été conçu pour la femme et qui a été créé avec l'aide d'une communauté de femmes. Et aussi, le pouvoir, pour nous, c'est un peu prendre pouvoir. C'est pas nécessairement le reprendre, comme certains slogans le disent, mais c'est vraiment prendre pouvoir, prendre possession de son corps, bien le comprendre et le vivre comme un allié et pas un ennemi. Fempo, c'est ça.
Ce sont vraiment les valeurs que vous vouliez transmettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui achètent vos culottes ?
Oui, jeunes et moins jeunes, parce que oui, c'est vraiment ce qu'on voulait transmettre. Et je dis jeunes et moins jeunes parce que pour certaines, ben, quand c'est les débuts des règles, c'est un moment qui peut être des fois est nouveau, est inconnu. On sait par le biais de témoignages, a des fois été difficile pour certaines. Et pour les moins vieilles, parce que ben, c'est quand même quelque chose qu'on vit pendant plusieurs années. Et des fois, apprendre à connaître son corps, c'est une expérience qui prend plusieurs années. Oui, c'est quelque chose qui pour nous était primordial et ça faisait partie des éléments clés. C'est vraiment comment on fait pour donner pouvoir aux femmes qui nous entourent, à celles qui veulent adhérer à ce mouvement, à cette nouvelle façon de comprendre aujourd'hui ce qu'est les règles, mais dans le sens plus large, son corps aussi.
C'est aussi une façon de repenser les règles ou en tout cas de les représenter. Je pense que dans la société, on a quand même une image des règles qui est très erronée finalement, où on a un flux qui est de couleur bleue bien souvent, pas du tout représentatif de la réalité. Est-ce que tu avais aussi cette volonté de déconstruire tout ce tabou autour des règles ?
En fait, on ne l'a pas vraiment pensé comme un tabou avec Fanny, et ça, je pense que c'est par le biais d'une éducation et d'une famille qui était, on va dire, un peu différente de ce qui se passe chez les autres. Juste pour dire, moi, tu vois, j'ai grandi avec ma grand-mère, avec ma mère, deux filles dans la famille, en plus de mon frère et mon père, et on a toujours été... En fait, c'était limite un non-sujet, quoi. C'était pas une catastrophe, c'était quelque chose d'assez naturel qui arrivait. Ma grand-mère, franchement, paix à son âme, mais c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement forte, mais une force tranquille. Elle prenait pas beaucoup de place, et qu'on a une oreille. Pour elle, c'était un passage normal, expliqué avec des vrais mots, pas avec des espèces de faux mots, des euphémismes, quoi que ce soit. Et je pense que Fanny, elle a une éducation similaire, elle aussi. Elle vient d'une famille où ils sont cinq filles. Donc, elle, la plus jeune, donc elle aussi, elle a même découvert tout ce qui était protection hygiénique, à même d'en avoir besoin, finalement. Puisque quand tu as des sœurs qui ont, tu vois, 5-10 ans plus que toi, ben, tu découvres les tampons, les serviettes bien avant l'âge. T'en as besoin. Et donc, c'est vrai que quand on est arrivé à FEMPO, nous, notre expérience, elle nous disait que c'était quelque chose de tout à fait normal, qu'il y avait peut-être des fois des complications, on n'y vivait pas nécessairement exactement de la même façon d'une personne à l'autre, c'est tout à fait normal, on est tous différentes dans notre corps, mais c'est clair que pour nous, il ne fallait pas être dans une espèce de situation où est-ce qu'on se disait on essaie de briser quelque chose, on essaie de clasher avec le passé. Pour nous, c'est juste c'est du franc-parler, c'est du smile, c'est Claudette et Fanny qui vous expliquent quelque chose d'assez simple, finalement. Et donc, je pense qu'en ayant cette posture, oui, elle a été prise comme on brise les tabous, finalement, mais il faut savoir que pour nous, on n'a jamais adopté comme ça. Et je suis plutôt contente parce que, en effet, quand on a commencé il y a 3 ans, quand j'expliquais aux gens le projet ou ce sur quoi on voulait travailler, ben, c'est vrai que c'était un peu compliqué. On posait un peu des regards bizarres, dire oh, ouais, je sais quoi ce sujet. Et pour moi, ça m'étonnait finalement. Et là, 3 ans plus tard, c'est un sujet qui devient de plus en plus démocratisé. Tu parlais du fait que, tu vois, il y a le sang bleu. C'est de moins en moins vu, je crois. C'est devenu de plus en plus ringard d'utiliser ce type de colorant. Et on est plus dans le vrai, dans les vrais mots, dans les vraies expressions. Et du coup, je suis plutôt contente que, bah, à notre manière, on a contribué à tout ça, à ce shift, on va dire, un peu, dans la façon d'aborder les choses et de comprendre ce qui, pour moi, est tout à fait normal et récurrent dans la vie d'un grand nombre de femmes sur cette planète.
Toi, lorsque tu as eu tes règles pour la première fois, vers quel type de protection hygiénique t'es-tu dirigée ?
Oh, comme plusieurs filles, ben, je me suis dirigée vers ce qu'on m'avait tendu en premier, donc je n'ai pas trop posé de questions. Donc, c'était des protections externes, jetables, des serviettes. Et je ne me suis pas vraiment posé de questions pendant un moment, puisqu'on fait comme notre sœur a fait, comme notre maman fait. Après, évidemment, on essaie de prendre son indépendance et on va, tu vois, parce qu'on veut faire du sport, parce que les copines utilisent autre chose. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais sur du jetable. Et ensuite, moi, en fait, ma révélation, elle a eu lieu quand j'ai déménagé à Vancouver. Vancouver, c'est sur la côte ouest du Canada. Et j'étais vraiment, je suis passée d'un contexte, on va dire, urbain, hyper sérieux, à le monde des bobos, quoi. C'était vraiment fantastique, granola, tout le monde faisait du yoga et personne utilisait du jetable. Et donc, de là, j'ai découvert la coupe menstruelle, et ma coloc finalement me l'a montré, et ça a été le produit que j'ai utilisé pendant 10 ans après, parce que pour moi c'était une révolution, déjà une révolution, on va dire, financière, parce que ben, je ne me tapais pas 7-8 euros tous les mois en dépenses. Tu vois, un achat de 30 balles, il était good pendant 4-5 ans. Donc, il y avait la révolution sur le portefeuille, mais aussi sur le confort, la flexibilité, la possibilité de faire un peu ton quotidien sans trop te poser de questions. Et 10 ans plus tard, en développant Fembo, là, je suis passée à une étape supérieure du confort, parce que là, c'était vraiment la culotte que tu enfiles, tu te poses pas de questions, c'est les étapes normales, comme d'habitude, bon, tous les jours, en tout cas, j'espère que tout le monde enfile une culotte. Là, je suis vraiment arrivée au next level, quoi. Donc, c'est un peu mon parcours, c'est un peu mon protection. Et je pense que mon parcours n'est pas différent de plusieurs femmes que je connais. On commence toujours un peu avec ce qu'on nous donne. Après, on va vers peut-être ce que les copines, elles utilisent. Certaines restent sur de l'interne, d'autres sur des protections externes. Mais je pense que pour plusieurs d'entre nous, en tout cas les femmes de ma génération, même jeune, on est en quête d'un produit qui lui permet d'être plus à l'aise, plus, beaucoup plus confortable et en adéquation avec nos valeurs, on va dire, autour de l'écologie, la production de déchets. Et donc, il y a de plus en plus de solutions qui, elles, se positionnent justement sur ces...
Et comment est-ce que tu as eu l'idée de développer ces culottes? Est-ce que tu as été inspirée par ce qui se faisait à l'étranger ou est-ce que l'idée t'est venue un jour avec, avec ton associé de tenter le coup et d'essayer?
Ah non, mais c'est clairement, j'ai été influencée, pour moi, c'était pas l'étranger parce que j'ai grandi au Canada. Donc, c'était en venant en France, quand je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, il y avait une prise de conscience en France qui, elle, avait déjà été quand même datée au Canada autour des protections jetables, le fait qu'elles étaient de plus en plus toxiques, ou en tout cas pas de plus en plus, mais qu'on parlait en fait de la toxicité de ces produits-là. Et donc, moi, en arrivant ici, déjà, j'ai débarqué avec ma coupe menstruelle. Et je sais que pour tout le monde, ils disaient « Ah ouais, c'est une révolution. »
Je voulais en parler parce qu'effectivement, toi, tu as vécu au Canada et c'est vrai qu'il y a une grande différence en fait pour la coupe menstruelle entre même le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et la France. Et la France a vraiment un train de retard, quoi.
Ben, et je le savais pas du tout, tu vois, c'est vraiment, je suis arrivée, je suis comme, ben, le truc, ça fait longtemps, ça existe. Si on remonte dans les archives, je crois que la première marque au Canada, elle date de 88 ou 98, je me souviens plus. Mais, tu vois, c'est quand même quelque chose qui a au moins 20 ans. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en arrivant en France, j'étais déjà inspirée de ce que j'avais vécu à Vancouver et à Montréal. Et je me suis dit, qu'on faisait l'échange d'idées, de ce qu'on voudrait monter comme projet, ce sur quoi on allait se reposer, plutôt que de décider pour les femmes ce qu'on voulait développer, on a plutôt eu la conversation avec des femmes par le biais, en premier, d'un sondage qu'on a fait sur les réseaux sociaux, qui nous a permis déjà d'identifier qu'il y avait une problématique et les femmes étaient vraiment en quête de confort parce que 7 sur 10 disaient qu'elles n'étaient pas du tout confortables durant leurs règles. Et donc, de là, on s'est dit, si on essaye de développer quelque chose qui répond à ce problème numéro 1, quelle serait la meilleure solution? Sachant que, comme on a dit, la coupe menstruelle, elle faisait déjà son apparition en France, mais c'est un produit interne et pour diverses raisons, des femmes, elles vont dire je ne suis pas nécessairement à l'aise ou je ne veux tout simplement pas porter un produit intravaginal. Et donc là, tu as d'autres options externes type serviette hygiénique lavable, mais moi, je n'ai pas nécessairement une envie de développer ce produit-là parce que je trouve qu'il n'est pas nécessairement au niveau confort arrivé très loin. Tu vois, c'est quand même quelque chose qui est externe à ta culotte. Des fois, ça part un peu en skateboard. La nuit, tu vois, on a tous un peu eu les drames. Où est-ce que tu te réveilles, le truc, tu mets à moitié au lombril. Non, en fait, c'était pas le truc que je voulais développer. Mais par contre, je savais que la culotte menstruelle commençait un tout petit peu à faire son apparition au Canada et aux États-Unis. Mais c'était un produit complémentaire. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on portait en plus d'un tampon, en plus d'une cape, juste pour avoir la petite protection supplémentaire, ou sinon, à la fin ou au tout début des règles, quand c'est très léger, c'est juste, tu vois, au cas où. Moi, mon but, c'était vraiment de trouver quelque chose qu'on pouvait faire qui permettrait à tout moment d'être porté durant le cycle. Et donc, c'est là qu'on a vraiment, et à la fois à l'aide des retours qui nous ont été faits par le questionnaire, par des vraies femmes, et aussi notre expérience à nous et à Fanny, on s'est dit que oui, la culotte, c'était probablement le meilleur choix à faire, mais qu'il fallait définitivement faire des améliorations par rapport à ce qu'on avait pu voir à dispo sur le marché. Et je pense que c'est un pari qui a été plutôt gagnant, parce que au-delà du développement et des échanges en bêta-test, la première année, on a plus de 50 000 femmes qui ont dit « oui, en effet, j'ai besoin d'un produit comme le vôtre » et qui ont rejoint ce que l'on appelle la Funko Community de Warriors. Donc, c'est plutôt cool.
Ça a été un très grand succès, en effet. Quand tu disais que vous aviez réalisé un sondage, ça veut dire que vous aviez déjà une communauté de femmes à laquelle vous pouviez vous adresser ?
Au début du sondage, pas du tout. Qu'on a posé le sondage, c'était vraiment quelque chose que j'ai fait via les réseaux sociaux, en postant sur les groupes publics. C'était encore possible. Là, je pense que c'est un peu plus compliqué de faire ça. Mais il y avait différents groupes, soit autour du corps de la femme, des protections, ou juste des groupes publics où on a posté un sondage. C'était très simple. Il y avait 10 questions autour des règles. Je pense que le sondage même s'appelait « Vous et vos règles ». On posait des questions type « Quel type de produit tu issues ? Est-ce que tu en es satisfaite ? Sinon, pourquoi ? Si oui, pourquoi ?» Et ce qu'on a été plutôt smart, c'est à la fin, on avait un espace parce que c'était « Est-ce que tu as un commentaire en plus à nous donner ?» Lâche-toi. Il y avait juste un champ libre parce qu'on pouvait nous écrire. Et c'est là qu'on a vraiment trouvé une mine d'or en termes d'information, parce que les femmes nous ont vraiment, elles se sont révélées. Elles nous ont dit des trucs que je crois qu'aujourd'hui, ils continuent à... Tu vois, pour moi, c'était d'une générosité, on va dire, incroyable. Mais elles nous expliquaient qu'en fait, c'était assez compliqué pour certaines, qu'elles n'étaient pas du tout confortables, qu'elles avaient des irritations, tu vois, des problèmes gynécologiques, etc., que leur médecin leur dit ça, ben, limite arrête d'utiliser des protections, et c'est comme ben non, en fait je peux pas.
Donc, si, le flux instinctif au bureau, très pratique.
Ah oui, très pratique. Et donc elle se révélait à nous, et c'est vrai que c'est ça qui nous a, au-delà du fait qu'on savait qu'on voulait travailler ensemble avec Fanny, mais ça nous a vraiment extrêmement motivés à trouver une solution. Et en fait, ces premières personnes qui ont répondu, parce que c'était plus de 3000 à nous avoir répondu, un petit groupe nous ont également laissé leur adresse mail pour suivre un peu l'aventure et avoir les résultats du sondage. Et ces 600 personnes, c'est elles qui sont les premières, on va dire, à avoir développé la communauté Fempo et nous avoir permis de tester nos prototypes, de valider le produit et ensuite acheter nos premiers produits mis en vente à la fin de cette même année.
Et au niveau des matières, vers quelles matières est-ce que vous vous êtes orienté ? Est-ce qu'il y a des matières plus absorbantes que d'autres ? Comment est-ce que tu as réussi à identifier tout ça ?
Pour nous, les matières, c'était toujours très clair. Le premier point, c'est est-ce que c'est confortable ? Il fallait que ça soit quelque chose que quand tu l'enfiles, tu as l'impression de porter un nuage. Donc, ça a toujours été, le point sur lequel on ne s'est jamais... on s'obligeait finalement à atteindre. Pour les matières absorbantes et autres, on a testé différentes matières. On s'est arrêté sur une fibre de bambou. Donc, c'est une fibre qui, elle, est à l'intérieur et qui est beaucoup plus absorbante que le coton, par exemple, mais qui a aussi des propriétés antibactériennes. Donc, en fait, c'est de là qu'on a ce côté qu'il n'y a pas d'odeur dans une Fempo. On a aussi essayé de garder des matières qui étaient régionales. Donc, nos matières aujourd'hui sont sourcées en France et en Italie. Ça nous permet d'avoir la main et d'être proche finalement de nos fournisseurs. Et surtout, quand on a commencé, vu qu'on ne connaissait presque rien dans le monde du textile, c'est presque rien en fait, on ne connaissait absolument rien, de vraiment s'entourer et à la fois des meilleurs fournisseurs, donc des gens qui avaient plusieurs années d'expérience et qui pouvaient nous aider, nous guider aux besoins, mais aussi des vrais partenaires. C'est bien beau d'acheter du coton ici, des élastiques par là, mais en fait, les fournisseurs qui sont encore aujourd'hui avec nous, pour la plupart, sont nos fournisseurs historiques. Et c'est des gens qui ont grandi avec nous, en fait, qui nous ont vus passer, des commandes de 100 mètres à 500 mètres à 1000 mètres. Aujourd'hui, sont, je crois, tout aussi content et même un peu fier finalement de ce qu'on a pu construire en 3 ans. Je sais que par exemple, tu vois, un de nos fournisseurs nous appelle régulièrement et dit « Franchement, c'est incroyable quoi ». Et nous, on est tout aussi contente parce qu'on se dit bah, « Tu vois, c'est à chaque fois qu'on passe commande, bah, c'est des centaines, des milliers de femmes qui, elles, bah, disent oui à la culotte Fempo, certes, mais qui ont la possibilité d'avoir une option différente de ce qui était jusqu'à maintenant le marché des protections hygiéniques. Donc, dans le choix des partenaires, pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'être responsable de la façon, tu sais, sur les choix, et à la fois sur la qualité, le confort, l'accès régional, mais aussi choisir des partenaires qui, eux, vont vouloir grandir avec nous, et qui verront, qui vont vouloir faire partie un peu de l'aventure, finalement.
Oui, qui seront aussi des soutiens dans toute cette aventure. Et pour la confection des culottes, où est-ce que ça a lieu?
Donc, la confection, elle aussi, on essaie de rester dans un périmètre assez proche. Pour le coup, au tout début, on a essayé de produire en France, mais c'était assez compliqué. Déjà, parce que c'était plutôt axé sur des prix qui auraient rendu la culotte Fempo un produit de luxe, un ticket assez élevé. Ensuite, on a essayé de travailler, et maintenant, on a réussi avec un partenaire au Portugal. Je dis, on a essayé parce qu'au tout début, c'était un peu une aventure, parce que notre premier atelier au Portugal a fait faillite avant même qu'on sorte notre première collection.
C'est-à-dire qu'ils avaient réalisé vos prototypes et ils ont fait faillite après?
Oui, entre-temps, sans livrer la première commande. Donc, on a dû rapatrier avec Fanny. On s'est pris un camion, on est allé au Portugal pour essayer de rapatrier des robots tissus. Bon, ouais, c'était toute une aventure. En tout cas, ça nous a bien formés. Mais aujourd'hui, on a un autre partenaire au Portugal qui produit de la Fempo. Et sinon, dans le début, on a commencé au tout début, on continue de travailler aujourd'hui avec un atelier en Tunisie qui font nos produits. Et donc, l'idée pour nous, quand on grandit, c'est évidemment d'essayer de diversifier un peu les ateliers parce que, hein, tu vois, c'est une entreprise, elle a un pépin ou fait faillite, c'est compliqué. Donc, au tout début, on est quand même resté très longtemps avec un partenaire unique. Mais là, aujourd'hui, on essaie de travailler et à la fois en Europe et un peu dans le Maghreb, trouver des gens qui peuvent nous aider à grandir, justement.
Au niveau des tarifs, qu'est-ce que tu avais en tête? Est-ce que tu voulais te positionner sur un tarif à peu près similaire à celui de la coupe menstruelle, par exemple?
Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on l'avait pensé, mais oui, quelque chose qui restait abordable. Je ne voulais absolument pas que ce soit un produit de luxe. Je voulais que ça soit un produit luxueux, mais qui n'avait pas le prix d'un produit luxe. Je voulais qu'il soit accessible, tu vois, et à la fois pour une femme comme moi, qui, quand j'ai commencé ce projet, j'étais étudiante avec des revenus quasi non existants. Donc, tu vois, il fallait qu'on aille. En fait, on a toujours essayé d'être, tu vois, entre les 30 et 40 euros. Les fois où est-ce qu'on a dépassé ce tarif-là, c'est par exemple, là, on a sorti une capsule lumière, parce qu'on est allé travailler un tissu spécialement fait pour Fempo, tissé avec des paillettes. Donc, tu vois, c'est pas ta culotte de tous les jours, mais c'était aussi, tu vois, on voulait faire quelque chose, un peu un bijou finalement pour nos clientes, mais le produit, on va dire, classique, reste entre les 30 et 40 euros. Pour moi, une fois qu'on... Bon, ça peut être un ticket, on va dire, un peu plus élevé pour certaines à l'achat direct, mais qui se rentabilise assez rapidement lorsqu'on compare à l'achat de produits jetables, même récurrents, même sur une première année, quoi. Donc, je pense que ça s'explique assez facilement.
D'autant plus qu'on a une durée de vie du produit qui est estimée entre à combien ?
Ben, estimer, parce que ça prend toujours en compte combien tu en as, combien de fois tu l'utilises, est-ce que tu l'utilises au début, à la fin, pour tous les jours. Mais avec un entretien, on va dire correct, on est entre du 5 à 7 ans, sachant que les matières qu'on utilise, elles vont toujours garder leurs propriétés absorbante et antibactérienne. C'est vraiment, il y aura peut-être un usage, une usure du tissu, un peu comme un t-shirt, tu vois, il y a des t-shirts que moi je traîne depuis genre 20 ans. Bon, plus la même tête, mais tout aussi bon, on les porte avec toute la fierté. Mais c'est un peu comme ça, tu vois. Donc, les tissus extérieurs, intérieurs, la matière absorbante et tout, c'est le même principe. Donc, on en prend soin, ça dure longtemps, on l'utilise moins souvent, même chose. Après, on recommande, et c'est pour ça qu'on recommande, ben, déjà qu'on veut tester de commencer par une culotte Fempo. Mais ensuite, si on décide que c'est une solution qu'on veut utiliser en priorité, ben, d'en avoir deux ou trois pour avoir un cycle qui roule normalement, quoi.
En sachant que ensuite pour l'entretien de la culotte, est-ce qu'il y a des préconisations?
Absolument. Alors là, je ne vais pas aller dans tous les détails parce qu'il y a une énorme pavé sur le sujet sur le site. Mais en gros, on demande, tu vois, comme des soulèvements classiques, d'éviter tout ce qui sera sèche-linge, chaleur directe, de laver avec un savon non gras, écolo. On peut utiliser uniquement soit un savon ou une lessive, acheter soit la Biocoop, soit un marché, etc. On a quelques marques qu'on donne en référence. Pour celles qui font leur propre lessive, on a aussi également des recettes, des recommandations de clientes qui peuvent être prises sur le site également. Mais s'il y a un doute, une question, comme j'ai dit, il y a un énorme bavé sur le site, sur le sujet, mais on peut également nous écrire directement à info@fempo.co et l'équipe se fera un plaisir de faire des recos et qu'on discute s'il y a une question sur le sujet.
Parfait. Et j'ai une dernière question un peu plus technique toujours de la culotte. Est-ce que ça convient à tous les types de flux, c'est-à-dire une femme qui aurait des problèmes d'endométriose, une femme qui portera un stérilet en cuivre? Est-ce que ça conviendra aussi pour des flux abondants?
Ben, aujourd'hui, oui, on a beaucoup de clientes, mais quasiment depuis le début, hein, qui ont différents types de situations. Donc, ce que tu as évoqué, port de stérilet, endométriose. On a même développé, grâce à elle, un modèle en flux abondant qu'on appelle la Power Plus Plus. Donc, qui, elle, est déclinée dans les différentes formes de culottes qu'on a aujourd'hui, que ce soit le shorty ou la taille haute. Et donc, qui a une absorption, on va dire, supplémentaire. Et après, on a les culottes classiques qui, elles, convient très bien, tu vois, début et fin de règle. Ce qu'on recommande aussi, et c'est au fur et à mesure de travailler sur ce sujet, on a essayé de vraiment quantifier, même si je suis toujours un peu gênée de le faire parce que chaque personne est unique et est différente. Donc, j'aime pas catégoriser les gens et dire, toi, t'es un flux normal, t'es un flux abondant. Je pense que c'est super important, c'est que ben, déjà, on teste si on a un doute. On peut également vérifier par rapport à la perte journalière et voir quel modèle nous va, même si aujourd'hui, on sait que la plupart des femmes utilisent le flux abondant, donc la Power Plus Plus pour J2 ou J3, ça dépend de ton cycle, et des modèles classiques J1, 4 ou 5. Tu vois. Donc, ça, c'est un bon, on va dire, si on essaie de normer le truc. Sinon, moi, je suis une très grande fan de dire, ben, déjà, il faut tester. Tester soi-même dans les bonnes conditions. Donc, tu vois, le premier jour de tester une culotte Fempo, ben, on s'assure qu'on n'a pas 10 000 rendez-vous, qu'on ne sera pas à l'extérieur pendant 16 heures, parce qu'il faut vraiment prendre le temps, voir comment son corps réagit, comprendre son flux, à quel moment on a ses pertes, et ben, mieux comprendre finalement son cycle, quoi, pour finalement décider, ok, cette solution, elle est pour moi, mais à quel moment de mon cycle? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est à la fin? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on essaye d'accompagner finalement les femmes dans leur choix.
Il faut vraiment réussir à se réapproprier son corps et ses flux, et c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier, en fait, d'autant plus si on prend la pilule et qu'on sait qu'on va avoir nos règles tel jour à telle heure. J'exagère, mais c'est presque ça. Et en fait, on a peu conscience de notre cycle.
Et c'est incroyable à quel point on est capable de rester muet sur un truc qui est fondamental au fonctionnement de notre corps. Et c'est vrai que nous, très souvent, les témoignages qu'on reçoit sont déjà, j'ai réappris mon cycle, j'ai réappris mon corps, je comprends mes règles d'une façon différente, parce que en fait, porter la culotte, on va dire un peu, entre guillemets, nous confronte à nos règles, parce qu'on les voit, elles sont là, il faut qu'on lave le sous-vêtement. Et en plus, on sent finalement nos règles sentir à l'odeur, mais on sent le sang écouler, sans le sang écouler. Okay. Donc, tu vois, même ça, en fait, quand tu portes une protection intravaginale, c'est rare que tu aies accès à ça, et ça permet de mieux comprendre. Et même des femmes qui disent, ben, je suis mieux capable d'anticiper quand est-ce que, tu vois, je vais les avoir. Du coup, je suis capable d'aller aux toilettes plus souvent. Et du coup, tu vois, c'est limite le début du flux instinctif libre sans vraiment... c'est dit qu'on allait le faire. J'ai même des femmes qui nous disent, j'ai l'impression que j'ai des règles moins abondantes depuis que j'utilise la culotte. Ça, je pense que par le fait, justement, tu vas aux toilettes plus, de façon plus fréquente, parce que finalement, tu sens le sang couler. Enfin, je trouve une nouvelle expression pour ça. tu es capable t'es en connexion directe avec ton corps, en fait. Et ça, on n'a pas toujours conscience que si ça fait plusieurs années qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe, que ça peut prendre quelques semaines, quelques mois pour être à l'aise finalement. Ouais.
C'est quelque chose que tu avais envisagé d'avoir de tels retours des femmes à qui tu vendrais tes culottes ou pas du tout?
Oh, je savais que ça allait être spécial comme aventure, mais je ne savais pas du tout que ça allait mener à où est-ce que je suis aujourd'hui. Je suis tellement contente de ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi qui n'est pas du tout futuriste. J'ai beaucoup de mal des fois à voir très loin dans le temps, mais c'est pas pour autant que je suis pas pleine de joie par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui avec Fembo. C'est vraiment très cool, comme je te dis, la première année, de voir qu'il y avait autant de femmes qui ont dit oui, qui ont dit oui, en fait, c'est ça que j'attendais, c'est ce que j'avais besoin. Je suis trop contente de cette solution. Déjà, cette première année m'avait remplie de joie. Alors là, être capable de le faire sur 3 ans, c'est juste incroyable.
D'autant plus qu'en 3 ans, vous avez développé de nouveaux produits, dont un maillot de bain.
Oui,
qui est sorti l'été dernier. Et un maillot de bain, c'est là encore révolutionnaire. Ça permet aux femmes d'aller se baigner tranquillement, parce que c'est vrai que pour toutes celles qui avaient choisi des protections externes, l'étape piscine ou baignade était assez compliquée. Et donc là, ce maillot de bain, c'était vraiment ton souhait, votre souhait avec Fanny, de proposer une solution aussi pour la baignade.
Au-delà du mien, c'est ce qui était demandé de la communauté finalement. Et nous, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Hein. C'est qu'est-ce que vous voulez, et nous, on essaie de voir si on peut le développer. Et donc ça, depuis quasiment le début du projet, c'était un des premières choses qu'on nous a demandé, en fait. À quand le maillot de bain Fempo? Et c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué pour nous. On n'avait pas nécessairement la possibilité ou la bande passante pour développer un nouveau produit. Mais là, avec des nouvelles personnes qui nous ont rejoint dans l'équipe, un travail un peu plus approfondi sur le produit, on l'a finalement sorti cet été. Et c'était vraiment très, très cool, encore une fois, de voir comment les femmes se retrouvaient à la plage avec la culotte, avec le maillot de bain Fempo. On a même eu une nana qui nous envoie une photo, elle était durant son enterrement dite jeune fille avec ses règles, et c'est un enterrement d'une jeune fille durant l'été, donc c'était au bord de la piscine. Elle était comme, franchement, vous avez sauvé mon week-end. Des histoires comme ça, c'est franchement, ça fait que du smile, et je suis trop trop contente.
On parle beaucoup en ce moment de mode inclusive ou de marque inclusive plus généralement. Qu'est-ce que ça signifie selon toi, et est-ce que c'est quelque chose que tu essaies d'appliquer chez Fembo?
Pour moi, c'est ce qu'il y a de naturel. Je l'appelle pas nécessairement comme ça, parce que inclusive, ça veut dire en quelque part quelqu'un qui n'est pas dans le cercle ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que de façon très naturelle, très spontanée, sans trop y avoir pensé. Alors, mon premier shooting, c'était avec des copines de classe, parce qu'encore une fois, j'étais encore en cours. Et j'ai pris 3-4 meufs dans mon cours. J'ai dit, écoutez, vous faites quoi ce dimanche? Parce que moi, j'ai besoin de shooter des culottes. Et en développant les photos, les gens nous ont tout de suite dit, ah, non, mais c'est trop cool de voir des personnes avec des vrais corps, des vraies formes. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. En passant, oui, c'est... Pour moi, c'était normal, c'est des copines de classe. Et même chose pour notre prochain shooting, on a fait un sondage au sein de la communauté, voir qui pouvait nous aider, parce qu'il fallait qu'on shoot la première collection. 3-4 clientes qui se sont prononcées, allez hop, on prend des photos. Donc en fait, pour moi, c'est juste, c'est naturel finalement, c'est choisir les gens autour de moi, c'est choisir des femmes que je connais, que j'aime et qui représentent finalement le côté warrior de Fembo. Donc je crois que c'est peut-être... un petit peu du marketing qui voulait faire un bon travail que de dire une marque est inclusive ou pas. Moi, je ne sais pas de me positionner inclusive ou pas. Je vais juste dire, ben, c'est des femmes du quotidien, en fait. C'est les filles que je vois dans la rue, c'est celles que je rencontre, c'est mes clientes. Donc, si après, on réussit à avoir une meilleure représentation de ce qui se passe, ben, cool. Et s'il y a quelque chose qui manque, ben, dites-le nous. On essaiera de faire mieux.
Tu as prononcé le mot naturel dans ta réponse et c'est tout à fait ce qui se dégage quand on regarde les photos de vos shootings. C'est vraiment des femmes du quotidien, des femmes qui sont peu maquillées aussi. Alors, je ne sais pas si elles le sont ou pas, mais en tout cas, très, très légèrement, on a vraiment, voilà, on laisse apparaître le grain de peau, que ce soit sur le visage, mais aussi sur tout le corps, les petites vergetures, les grains de beauté, et ça, c'est rare.
On n'a rien à cacher. Bon, il y a un petit peu de maquillage, parce que c'est quand même de la photo, hein. on peut pas y aller à 100%, hein, sans rien. Mais c'est le maquillage qui te fait du bien, en fait. C'est le petit coup de blush qui te donne le smile. Moi, par exemple, depuis que j'ai 25 ans, je pense que tu vois, mon petit coup de mascara, c'est mon petit pouvoir magique, finalement. Et les jours où est-ce que je ne l'ai pas, même si je pense qu'il n'y a personne d'autre qui s'en rend compte que je porte du mascara quasiment tous les jours. Mais j'adore. C'est mon truc à moi, quand même. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, la promotion aussi. On fait un look qui te donne un petit sentiment de pouvoir et qui te met ce petit coup de pouce dont tu as besoin, pas quelque chose qui te cache, pas un masque, pas un maquillage qui lui enlève finalement qui tu es.
Fempo, moi, c'est la première marque française de culottes menstruelles que j'ai découvert. J'avais découvert et acheté auparavant Sinks aux États-Unis parce que je trouvais pas justement à l'époque de marque en France. Depuis, il y a énormément de marques de culottes hygiéniques qui ont vu le jour. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi? Est-ce que tu as réussi à ne pas te comparer, à juste continuer ton aventure Fempo avec tes girl power et voilà?
Ben, franchement, moi, j'adore le fait qu'il y a des gens qui s'ajoutent parce que finalement, ça dynamise le tout. Parce que c'était un peu compliqué là pendant la première année, voire presque 2 ans, parce que tu es tout seul dans ton carré de sable et tu dis, ben, est-ce que c'est moi qui est folle ou il n'y a pas un truc là? Donc, franchement, ça dynamise le truc. Je suis hyper contente et ça veut surtout dire que ben, il y a de plus en plus de femmes qui ont accès à cette solution. Donc, pour moi, c'est que du positif. Après, oui, les gens vont nous comparer, c'est tout à fait normal. Mais je sais qu'on a, on va dire, quelque chose d'unique, finalement, que ben, Fembo, pour moi, comme je l'ai dit au tout début, c'est femme et pouvoir. Et aujourd'hui, ça se prononce par le biais d'une culotte menstruelle, mais il y a tellement de choses qu'on veut développer que finalement j'ai vraiment pas de soucis. Je me prends pas trop la tête à me dire ben, qu'est-ce que le voisin il fait. En fait, ma vraie question c'est Claudette, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire avec Fanny? Qu'est-ce que tu veux construire? Allez hop, on y va quoi. Donc, c'est plutôt ce côté-là que j'essaie de garder droit devant et avoir mon objectif.
Et t'as bien raison. Alors normalement, c'est une question que je pose en début d'épisode, mais on s'est lancé direct, donc j'ai oublié. Est-ce que tu as un souvenir de ton premier geste écolo, toi qui as grandi au Canada?
Je pense que c'est moi, jeune adulte, quand j'ai vendu ma voiture et depuis, je refuse d'en acheter une nouvelle. Et surtout, je me suis mis à tout ce qui était mobilité partagée. Donc, au Canada, j'ai pris un abonnement en fait à deux services différents de mobilité de voitures électriques. Et en fait, pour moi, c'était devenu un peu une révolution parce que j'étais sortie de mon individualisme, de mon « j'ai besoin d'une voiture ». Et en plus, au Canada, pour avoir une voiture, ça dépend de où tu vis, mais c'est compliqué, quoi. C'est pas comme tu vas à Paris où il y a un métro à tous les 200 mètres, tu vois. Donc, ça, là-dessus, je pense que c'était un assez grand moment. Et ben, en plus, je vivais dans une ville qui s'apprêtait vraiment à ça. Tu vois, Vancouver, je rigole tout le temps, mais c'est vraiment... c'est le monde des bisounours, quoi. C'est, avoir une voiture, c'est maudit. Donc, on va dire que c'était un peu de la pression sociale, mais aussi moi, je commençais à voir que c'était plus du tout logique et c'était pas du tout en adéquation avec ce que je voulais. Après, il y a plein d'autres petits gestes qui se sont ajoutés, avoir une consommation, on va dire, réduite. Moi, mes copines rigolent parce qu'elles m'appellent un peu la minimaliste du groupe, mais c'est vrai que j'ai peu de choses. Mais ce que j'ai, je les aime, que ce soit au niveau du vêtement ou de possession terrestre. Après, c'est un peu un héritage d'avoir déménagé très, très souvent dans ma vie. Mais je pense que toutes ces choses-là, ouais, c'est un peu, on va dire, mes petits gestes écologiques du quotidien. Et c'est les moments où est-ce que je pense que je me sens le mieux.
Merci beaucoup. On finira sur cette note inspirante. Merci beaucoup, Claudette. C'était un plaisir de te recevoir au micro de Basilic.
Merci beaucoup, Jeanne.
Et à bientôt.
À bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Dans la barre de description, vous retrouverez plusieurs associations qui luttent contre la précarité menstruelle. Un sujet que nous n'avons pas abordé ici, mais qui me tient à cœur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en taguant Fempo et Basilic Podcast. Et comme toujours, si vous avez des suggestions à me faire et que vous souhaitez que je reçoive un ou une invitée en particulier, n'hésitez pas à me laisser des étoiles et un commentaire sur la plateforme d'Apple Podcast. Je ferai de mon mieux pour organiser une telle rencontre. Je vous remercie de votre soutien et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.